Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Bonjour Guylaine Dubois.
Bonjour Lucas Bielli.
Alors Guylaine, aujourd'hui en tant que psychanalyste, vous avez posé une question.
Ouais.
Freud était-il anti-féministe ?
Oui, c'est une question que l'on voit souvent dans des revues psychologiques. Et je me suis positionnée par rapport à ça. Je prends un risque, hein, mais bon, il faut bien de temps en temps. Rappelons-le, Lucas.
Oui.
Sigmund Freud est né le 6 mai 1856 à Freiberg, dans l'Empire d'Autriche, et meurt à Londres le 23 septembre 1939. Il s'installe donc à Vienne dans les années 1880. Depuis 1867, les Juifs obtiennent l'émancipation, et malgré un antisémitisme latent, Vienne est une capitale artistique, intellectuelle et culturelle européenne vivante jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Dans cette euphorie, Sigmund Freud élabore la psychanalyse en travaillant en 1885 en France avec Jean-Baptiste Charcot, neurologue, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, et ce moment-là est un moment clé de son existence. 10 ans après, Freud publie ses études sur l'hystérie, études écrites en s'intéressant aux patientes qui, les premières, après l'expérience avec les femmes hospitalisées à la Salpêtrière, lui exposent des pensées qu'elles n'avaient jamais osé partager avec les professionnels de la médecine. Ce sont donc les femmes, Lucas, ses patientes, d'un niveau social aisé, qui lui apprennent à se taire et à écouter. Citons parmi elles Anna von Lieben, Margarete Sonka, la jeune homosexuelle, qui sont des femmes richissimes, ou encore Fanny Moser, appelée Amy von N dans ses études sur l'hystérie, et considérée comme la femme la plus riche d'Europe centrale. Ou encore Marie Bonaparte, arrière-petite-nièce de Napoléon Ier. Mais aujourd'hui, les féministes retiennent et critiquent le travail de Freud sur le concept d'Œdipe féminin. On l'a déjà vu dans nos émissions, le concept d'Œdipe est décrit par Freud du point de vue du petit garçon, qui a une position ambivalente envers le père et une tendresse pour sa mère, avec tous les jeux croisés d'identification possibles pour ce petit garçon. Dans ce scénario du complexe d'Œdipe, tout enfant croit que toute personne est dotée d'un pénis, auquel Freud accorde la primauté lors du développement psychosexuel commun à la fille et au garçon. C'est seulement en 1933 que Freud prend en compte l'attachement pré-œdipien à la mère. Cette vision freudienne du primat du phallus, qu'on appelle aussi le monisme sexuel freudien, fait dire que la psychanalyse n'a pas les outils pour éclaircir les questions de l'identité qui ne se mesureraient qu'à l'aune d'avoir ou pas un phallus. Pourtant, sans le discours freudien sur la sexualité que Freud a voulu rendre accessible à tous en donnant des conférences publiques, sans sa vindicte à ne pas opposer le psychisme à l'organique, à ne plus considérer l'hystérie comme l'apanage des seules femmes, sans jamais ne vouloir porter de jugement moral sur les pratiques sexuelles, Freud a permis de penser librement le développement de la sexualité chez l'être humain. Il a aussi différencié le féminin comme structure psychique présente chez le garçon comme chez la fille, de la féminité qui est de l'ordre du devenir de la sexualité de la femme. Mais pour Freud, la femme reste un continent noir. En disant cela dans les années 30, il avoue une incapacité pour lui à explorer la sexualité féminine. Même si Freud a contesté l'universalité de l'angoisse de castration, la fille ne pouvant en être atteinte, il considère que la fille et le garçon ont jusqu'à ce stade le même développement. Et il faudra les travaux de Mélanie Klein, puis ceux notamment d'une psychanalyste contemporaine, Janine Chasseguès-Mirgel, ou encore d'André Green pour considérer la spécialité de la sexualité féminine, qui ne peut maintenant et aujourd'hui se réduire à une analyse par le manque de pénis et à la recherche d'un idéal qui serait de posséder cet organe. La différence du développement entre filles et garçons est à chercher du côté de leur attachement spécifique à la mère. Pour Mélanie Klein, le désir œdipien vient de la frustration éprouvée à l'égard du sein maternel. Cette frustration conduirait la fille à se retourner vers une autre satisfaction qui serait obtenue avec le père. Pour que cette transition se passe bien, les relations entre le bébé, notamment fille, et la mère sont déterminantes. Ainsi, pour moi, traiter de Freud d'antiféministe est injuste. Cet homme, né en 1856, a ouvert la réflexion sur le développement psychosexuel. Les batailles sociales et revendicatrices sur la place des femmes dans la société, leur difficulté à obtenir gain de cause sur l'égalité sociale entre les hommes et les femmes sont d'ordre culturel et sociétal et non psychanalytique.
De retour sur FM+, pour Radio Divan. Merci Guylaine Dubois pour avoir abordé ce sujet fort intéressant. Alors je voudrais faire aussi une petite remise dans le contexte. C'est que Freud à son époque était à ce qu'on appelle l'ère victorienne, où les mœurs n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Elles ont évolué petit à petit pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce que nous connaissons. On peut aussi peut-être se demander s'il lui était possible... au vu le contexte dans lequel il vivait, de pouvoir aborder pleinement la sexualité féminine, comme on le peut faire aujourd'hui, ou comme on a pu le faire au fil du temps, ou si simplement, ce n'est pas qu'il ne savait pas le faire, ou qu'il ne voulait pas le faire, mais peut-être que ça ne serait pas passé, et que ça aurait pu décrédibiliser certainement autre chose. Le temps n'était pas encore venu. Et on le sait, Freud disait souvent qu'il laissait le temps futur continuer de parachever ce qu'il n'a pas pu faire, soit par manque d'informations, soit tout simplement parce que le contexte historique ne lui permettait pas.
Oui, je suis assez d'accord avec vous, Lucas. Je pense aussi que il a quand même découvert cette notion de complexe d'Œdipe. Il est resté sur cette question d'universalité. C'était déjà énorme, complexe qui est d'ailleurs qui a longtemps été contesté. Et ce complexe d'Œdipe appelait aussi cette étude sur le complexe de castration. Et pour lui, moi j'ai l'impression qu'il était comme dans une impasse. D'abord, il était homme. Il avait une... Les femmes ne s'exprimaient peut-être pas aussi facilement qu'aujourd'hui, comme vous le disiez. Et je vais rien rajouter de plus à ce que vous avez dit. Il y avait vraiment une question de temporalité qui n'était pas arrivée. Sans compter que les travaux de Mélanie Klein, que j'ai cités, ont énormément apporté sur cette notion de bébé qui a des pulsions agressives vis-à-vis de la mère. Et c'est à partir de là que va se construire une identité de la petite fille vis-à-vis de cette frustration vis-à-vis de la mère. Bon, c'est assez complet, je ne rentrerai pas trop dans les détails là tout de suite parce que c'est vraiment long, mais peut-être on pourra faire une émission sur Mélanie Klein qui a apporté des éléments très provocateurs et très perturbateurs au fond sur comment elle percevait la relation du bébé avec ses pulsions agressives. Et c'est à partir de là qu'on a pu élaborer cette orientation nouvelle du bébé-fille vers une autre personne que la maman.
Bien oui, je pense que nous aborderons ce sujet dans une prochaine émission, Guylaine.
D'accord, c'est daté. Si on promet, on fait.
Allez, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Lucas. Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.